Il est 7h10 et voici notre première invitée, Hortense Archambault, directrice de la MC 93, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. La culture fait vivre, mais les politiques de prévention nous empêchent de mourir. Voilà comment la ministre Roselyne Bachelot a expliqué hier la décision annoncée la veille. Pas de réouverture des lieux de culture mardi prochain. Il y avait, c'est vrai, du conditionnel lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé cette date du 15 décembre. Mais dans beaucoup de théâtres, salles de concert, cinémas, musées, on était prêts. C'était le cas à la MC 93, la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, que vous dirigez à Bobigny. Hortense Archambault, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. MC 93 que vous dirigez depuis 2015. Avant cela, vous aviez co-dirigé avec Vincent Baudrier le Festival d'Avignon de 2004 à 2013. Et entre les deux, vous avez notamment participé à la mission de 2014 sur le statut d'intermittent du spectacle. Pour commencer très simplement, Hortense Archambault, quel est votre état d'esprit ce matin ?
C'est un peu difficile de trouver les mots pour le dire, en fait, je crois, parce que ça fait un peu 10 mois, depuis mars maintenant, qu'on est dans une situation assez inextricable, en fait, dans l'exercice de nos missions. Et j'ai envie de dire qu'il y a eu d'abord une sorte de grande acceptation, bien sûr, avec une capacité d'adaptation très très forte à l'intérieur de toutes nos maisons, beaucoup de solidarité. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est un peu cassé, j'ai l'impression, dans les dernières annonces, où effectivement on a eu l'impression qu'on aurait pu pouvoir réouvrir. Et donc il y a une sorte d'incompréhension, de tristesse, de colère mélangée, voilà. Et puis une fatigue aussi, je crois.
Est-ce que vous partagez le sentiment d'injustice que on lit beaucoup aussi là dans les réactions dans le monde de la culture? Est-ce que vous estimez qu'il y a une injustice ou est-ce que vous comprenez l'objectif sanitaire de cette décision?
En fait, je crois que la réflexion, moi, j'ai envie de la mettre ailleurs. C'est-à-dire que je trouve que cette crise, elle est vraiment un profond ébranlement pour à la fois intime et collectif, je crois, pour chacun d'entre nous. Et je me dis, finalement, quelle société on est en train de dessiner? Quelles sont les possibilités qu'on pourrait faire de changer, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais en mars, Bruno Latour avait lancé une sorte de questionnaire un peu qui était assez passionnant de s'en saisir en se disant, qu'est-ce qu'on a envie de garder du monde d'avant, qu'est-ce qu'on a envie de repenser dans le monde d'après. Et je crois que c'est plus ça qui est une grande inquiétude, si vous voulez. C'est-à-dire que, bien sûr, je voudrais pas être à la place du gouvernement qui doit faire des choix très difficiles, qui a aussi actionné beaucoup de solidarité. Mais en même temps, encore une fois, ça fait 10 mois. Et donc là, on est vraiment en train de se projeter, en fait, sur qu'est-ce qui est important. On a beaucoup parlé de cette question de l'essentiel. Donc, c'est plutôt que de se dire pourquoi eux et pas nous, pourquoi c'est plutôt de se dire est-ce qu'on pourrait pas avoir un débat collectif qui dirait finalement c'est quoi aujourd'hui en France les choses essentielles qu'on a envie de préserver et du coup de adapter ces choses aux conditions sanitaires. Je crois qu'on peut tous les uns et les autres maintenant on a bien compris en fait les gestes barrières, la manière dont on pouvait se préserver de la contamination et préserver les plus fragiles d'entre nous, évidemment, de l'hospitalisation. Et une fois qu'on s'est dit qu'on avait compris ça, finalement, qu'est-ce qu'on a envie d'ouvrir et de quoi on a besoin?
Mais alors justement, Hortense Archambault, vous dites lassitude, vous dites fatigue, on le comprend et on pense pouvoir dire que c'est un sentiment assez largement partagé, y compris au-delà du monde de la culture, d'ailleurs avec la période que nous vivons. Et vous parliez de Bruno Latour qui avait été beaucoup mobilisé pendant le premier confinement, c'est vrai. Et il y avait tous ces questionnements justement sur le monde d'après, qu'est-ce qu'on veut. On a l'impression que là, on n'a plus la force de se poser ces questions. Et d'ailleurs, c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de propositions en fait, de réflexion justement de long terme sur qu'est-ce qu'on veut, le monde d'après. C'est devenu presque une, quand on dit ça, on est naïf aujourd'hui.
Bah oui, mais c'est ça qui est dramatique en fait. C'est-à-dire que je pense que les choix politiques là aujourd'hui, ils sont dans l'immédiateté en fait des choses et nous empêchent de nous projeter collectivement et même individuellement. Moi, j'ai beaucoup de mal à penser depuis 10 mois et j'ai beaucoup de mal à penser aussi parce que finalement, la pensée, ça se fait pas tout seul dans sa chambre. Je pense qu'on analyse aujourd'hui enfin mon analyse, pardon, c'est la question du corps depuis 10 mois, du corps de notre corps à chacun et d'un corps collectif. Il n'est vu que du point de vue de la maladie. Et je pense que c'est une chose terrible, c'est-à-dire qu'on se rabougrit, on dépérit, on est dans une sorte de chose qui est de plus en plus enfermée et craintive. Et je pense que ça, c'est grave et que ça, ça serait une chose dont il faudrait qu'on puisse parler ensemble et qu'on puisse réfléchir. Il me semble que les lieux de culture sont les premiers lieux où on peut peut-être réfléchir et éprouver ensemble quelque chose, évidemment en toute sécurité sanitaire, mais que c'est absolument, c'est pas essentiel, c'est absolument, enfin vital au niveau social, quoi, de quel ce qu'on est en train de se projeter. Les artistes, pour moi, c'est des premiers, c'est comme des capteurs de toutes les questions sismiques. Et si vous voyez aujourd'hui, ils sont pas du tout dans, ils sont dans une très grande dignité, mais cet empêchement qu'ils ont eu depuis 10 mois d'exercer leur art dans le spectacle vivant et aussi dans les arts plastiques, puisque de toute façon, il n'y a pas moyen d'exposer, il n'y a pas moyen. Si vous voulez, la culture, elle se fait aussi dans la rencontre avec le public. Et donc, cet empêchement-là, on voit bien les effets de déflagration qu'il produit, quoi. Et c'est juste, c'est plutôt une alerte, en fait, de dire attention, qu'est-ce qu'on est en train de faire.
Il y a une série d'actions qui sont en cours de préparation du côté des syndicats. Un référé liberté devrait être déposé pour contester les fondements de cette décision de fermeture prolongée. Est-ce que vous approuvez ce type de démarche? Est-ce que vous vous y associez?
Ah oui, oui. Je crois que oui, justement par rapport à ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'au moins ça aura le mérite de lancer un débat, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une vraie question de société comme je vous le disais, et on au titre de l'association des scènes nationales, du SYNDEAC, qui est le syndicat des entreprises artistiques et culturelles du secteur public, auquel je suis pour la MC 93 adhérente, on est partie prenante de ce référé. Oui,
il y a la CGT Spectacle aussi qui appelle à manifester mardi prochain. Est-ce que là on entre quelque part dans une période où justement le monde de la culture essaye d'en appeler aussi au soutien justement de la société dans son ensemble, ou finalement si on considère que la culture est essentielle, il faut le montrer. C'est ça l'idée?
J'ai l'impression qu'effectivement on est passé d'une phase où on a beaucoup été dans l'adaptation, la compréhension, à une phase où il y a une sorte de colère et l'envie que ce sujet devienne un vrai débat public. En fait, ce qui est incroyable, c'est que depuis 10 mois, on a des témoignages absolument merveilleux des spectateurs, des artistes, puis nous confortent dans nos missions. En fait, nous, on est un vrai service public. Nos missions, c'est d'accompagner les artistes dans la création et puis d'accompagner la population, les habitants, à travers toute une série d'actions pour que, justement, ils puissent exercer leurs droits culturels. C'est-à-dire, finalement, venir voir des spectacles, grandir ensemble, réfléchir, partager, et qu'à un moment donné, les consignes sanitaires ne sont pas incompatibles avec cet exercice-là. Je crois que c'est ça, en fait, les vrais sujets.
Ouais, c'est ce que vous disiez déjà le 23 novembre dans cette tribune publiée par Télérama et signée par de très nombreux directeurs de théâtre qui demandaient effectivement la réouverture des théâtres en disant les protocoles sanitaires sont là, on les respecte, il n'y a pas de problème sanitaire. Bon, ce à quoi la ministre de la Culture notamment répond que le problème, ça n'est pas tellement le moment où on est au théâtre ou au cinéma, mais ce sont les mouvements, les brassages que une sortie au théâtre ou au cinéma peuvent entraîner.
Oui, mais c'est là où c'est un choix de société. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ouvre et qu'est-ce qu'on ferme et quels sont les endroits qu'on considère essentiels pour vivre ensemble et construire justement ce fameux monde d'après.
Donc vous considérez quand même qu'il y a une injustice, pour en revenir à ce qu'on disait au début.
Je sais pas si j'ai envie de la dire. Je me place pas dans cet endroit. Alors après, sur le plan juridique, on verra comment. C'est vraiment les juristes qui vont dire de quel argument on se sert sur ce recours. Et il y a une iniquité, bien sûr. Enfin, il y a l'idée de se dire est-ce qu'on peut aller à l'église et pas au théâtre? Est-ce que voilà, bon, ça c'est des. Mais moi, finalement, cette question-là de diviser les Français en disant qu'est-ce qu'on aurait le droit de faire ou pas, je trouve ça compliqué en fait, parce que c'est pas du tout l'objet de ce que j'ai envie de défendre. ce que j'ai envie de défendre, c'est de dire, est-ce qu'on peut sortir de l'urgence immédiate qui est quand même celle qu'on subit depuis 10 mois, parce qu'on peut considérer, je crois que les Français et chacun d'entre nous, on a bien compris qu'est-ce qui mettait en danger les uns et les autres et qu'est-ce qui ne les mettait pas, donc tout ce qui était gestes barrières, manière de fonctionner. On se dit qu'on doit apprendre quand même pendant quelques mois encore à vivre avec ce virus, et du coup comment on peut sortir de cette espèce de chose où moi j'ai l'impression d'être un hamster dans une roue, quoi, en fait, depuis 10 mois, et à essayer d'être dans cette espèce d'immédiateté d'urgence, à prendre aucun recul sur les effets de tout ce qui nous arrive, et se dire qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on défend. Ce qui est marrant, c'est que ces derniers temps, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont venus en France, soit eux, soit leurs parents, parce que la France, ça représentait quelque chose d'important pour eux sur la culture. On a tous des exemples quand on discute, et ces personnes disent, mais en fait, la chose pour laquelle on est venu, parce qu'on pensait que c'était ici, qu'on pourrait avoir quelque chose de quotidien, et que c'était une exception française très très forte, une sorte de marquage en fait, on est en train de l'abandonner. Et ben moi je suis pas d'accord en fait, parce que c'est une chose que j'ai envie de défendre, et je me dis ça mérite un débat public. Et quand j'entends que 56% des Français sont contre la mesure de fermer les cinémas, les théâtres, les musées.
Sondage au Doxa dans le Figaro ce matin, ouais.
Voilà, ça me rassure en fait. Je me dis finalement c'est rassurant, et c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que on aime ce pays, c'est pour moi l'art de vivre, c'est pour moi les paysages et c'est pour moi la culture. Et donc, à un moment donné, pourquoi est-ce que on est toujours les derniers à rouvrir ?
Et donc, à partir de là, l'argument qui consiste à dire « regardez ailleurs en Europe, c'est pareil », ça vous rassure ou ça vous inquiète ?
Non, mais en fait, c'est pas très vrai. C'est-à-dire que les théâtres ont fermé en Allemagne, mais ils ont fermé il y a pas longtemps. Et enfin, si on regarde dans l'année qui s'est écoulée, je pense qu'il faudrait être plus précis que ce que je suis en train de dire, mais je pense que les théâtres et les cinémas ont été plus fermés en France qu'ailleurs.
Et en même temps, vous avez travaillé, Hortense Archambault, avec différents ministres de la Culture. Vous avez fait cette mission dont je parlais en 2014 sur le statut d'intermittent. Là, Roselyne Bachelot a rappelé qu'il y avait déjà eu plus de 7 milliards pour la culture. Elle a demandé 35 millions d'euros supplémentaires. Il y a, mine de rien, un système en France qui protège, peut-être plus qu'ailleurs, les artistes. Ça, c'est une réalité aussi. Ça montre à quel point c'est précieux, d'ailleurs.
C'est évident, et c'est vraiment c'est le signe de ce que je disais, c'est-à-dire qu'effectivement on a un engagement, une politique culturelle de longue date très fort que tout le monde nous envie. Mais à un moment donné, la question, elle ne peut pas que se passer sur l'action financière. C'est-à-dire, bien sûr, c'est extrêmement important, mais on est en train, moi je pense, de toucher au fond de la création à travers le corps et l'esprit d'artistes qui sont empêchés depuis 10 mois. Et bien sûr, ils sont heureusement pas à la rue. Il y a des pays où ils sont à la rue. La plupart d'entre eux, même si il y a une précarité importante qui est en train de gagner notre secteur malgré toutes ces mesures de protection, hein, une très très grande précarité. Néanmoins, je veux dire, ça ne peut pas être qu'une question de finances, et c'est là où moi j'aimerais qu'on arrive à dépasser le débat. Je pense que c'est un peu le sens de se référer, le sens des manifestations de mardi, de dire finalement bien sûr c'est très bien d'être couvert, et c'est absolument essentiel, c'est insuffisant.
Qu'est-ce qui nous manque finalement quand on n'a pas ces spectacles?
Qu'est-ce qui vous manque? Moi, qu'est-ce qui me manque? Moi, je ça me manque beaucoup de
voir, dire, qu'est-ce qui nous manque en tant que société? Voilà, la tribune dont je parlais de Télérama, elle se terminait en parlant d'équilibre démocratique de la nation. Est-ce que c'est ça qui est en jeu?
Je crois que oui. Je crois que ce qui nous manque, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas tout seul dans sa chambre. Au bout d'un moment, on a besoin de d'éprouver, on a besoin d'incarnation, on a besoin de fiction, on a besoin de partager de la fiction, on a besoin de beauté, on a besoin de poésie, on a besoin de spectacle, on a besoin de se retrouver. Et à un moment donné, si on ne fait pas ça, je pense qu'on est dans une société totalement mortifère. Et on est en train d'être démoralisés tous, quoi.
Alors, je vais vous faire écouter un extrait de Roselyne Bachelot, donc la ministre de la Culture, qui était hier matin sur RMC-BFM TV et qui donc elle refuse ce débat essentiel, non essentiel, et qui parle de la résilience du monde de la culture.
Moi, je veux pas rentrer dans le débat bon. Essentiel, pas essentiel. Ça n'a pas de sens. La culture est essentielle. Mais on peut, pour des raisons sanitaires, faire en sorte de se protéger pendant quelques semaines. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a retardé la réouverture des salles de cinéma et des salles de théâtre. Mais la culture, elle continue. La création, elle continue. La culture va pas mourir, heureusement. Il y a des gens qui écrivent, qui lisent. On lit les derniers prix littéraires. On fait des captations de spectacles dans les théâtres subventionnés qui passent à la télévision. Il y a tout un monde culturel qui vit, qui bouillonne. J'ai veillé à ce que les tournages puissent continuer, à ce qu'on puisse faire des captations, à ce qu'on puisse faire des répétitions. Le monde de la culture, il a une résilience. La création, même dans les pires moments, elle ne s'arrête pas, bien entendu.
Le monde de la culture, il a une résilience. La création ne s'arrête pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Hortense Archambault ? Après tout, c'est vrai que malgré tout, il se passe des choses en ce moment.
D'accord. Bien sûr, mais en gros, c'est comme un élastique, en fait. Il faut tirer dessus, puis à un moment donné, peut-être qu'il peut se casser. Et je crois qu'on est à un moment donné où, de mon point de vue, l'élastique, il peut se casser. Très concrètement, il y a des tournages qui se font, des répétitions qui se font. À l'AMC 93, on a pu, dans le deuxième confinement, effectivement, travailler. Mais c'est un peu... on rigolait avec les artistes hier, on rigolait un peu jaune, mais c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une grossesse qui n'arrivait pas à aboutir. Et on se disait que c'était une grossesse d'éléphant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de spectacles aujourd'hui qui sont prêts à naître et qui ont besoin du public pour naître. Et c'est une caractéristique du spectacle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fait, finir un spectacle sans spectateur. C'est sa grandeur et sa beauté. Mais concrètement, aujourd'hui, on a plein de spectacles qui sont sur le point d'accoucher.
Alors justement, concrètement, ce que l'on aurait dû voir à partir de mardi à l'AMC 93, c'est la septième adaptation d'un texte de Tristan Garcia par Marie-Christine Soma. Et puis il y avait aussi Mauvaise de Debbie Tucker Green, mise en scène de Sébastien Deret, qui devait être joué hors les murs aux Têtes de Gennevilliers. Alors par exemple, concrètement, pour ces deux spectacles, il se passe quoi là ?
Bah concrètement, hier on a démonté le décor de la septième qui était voilà parce que les artistes ont continué de travailler, mais à un moment donné ça devient plus possible de travailler sans public et du coup cette fameuse résilience et ben elle a une limite et donc il faut attendre qu'on puisse réouvrir pour que le spectacle puisse être créé. C'est très très douloureux en fait hein, pour les artistes. Ça a l'air parfois délicat de se plaindre alors qu'il y a des gens qui ont des difficultés peut-être beaucoup plus fortes, mais c'est un type de difficulté particulière, c'est-à-dire que c'est pas des difficultés de survie ou de besoins primaires, c'est d'autres types de difficultés, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un sens et cette interrogation-là, à un moment donné, elle peut casser en fait des choses et des gens. Et puis sur les côtés des spectateurs, on a aussi des mots hier de spectateurs, beaucoup, qui sont arrivés, qui disaient on avait nos places, on avait envie de venir, vous nous manquez, on a besoin de vous, on est avec vous. Donc c'est très beau, c'est très fort. Mais à un moment donné, on a envie aussi que ça dépasse cette question-là et de se dire attention, attention à nous, pas parce qu'on est des pauvres petites choses, mais attention à nous parce que quelle société on est en train de construire.
Ce spectacle, La Mauvaise, il était déjà prévu en novembre, donc vous l'aviez déjà décalé. Comment, là par exemple, est-ce que vous avez tenté de le reprogrammer ? Est-ce que vous savez quand ? Là on dit le 7 janvier, en réalité ça n'est pas une date de réouverture, cette fois-ci on est peut-être plus prudent, mais c'est la prochaine date à laquelle on fera le point. Comment est-ce que vous arrivez à vous projeter, mais je veux dire d'un point de vue pratique, quoi, logistique.
J'ai envie de dire que nous, on est à peu près tout le temps à rouvrir dès qu'on peut. Demain, on peut rouvrir et inventer des choses, etc. Je pense que pour les artistes, c'est plus compliqué parce qu'à un moment donné, c'est pas qu'une, enfin, c'est une question d'énergie. Sur les circassiens, les danseurs, il y a eu beaucoup de blessures en ce moment dans les spectacles. Alors que si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est que notre ADN dans le spectacle vivant, c'est notre richesse, c'est les personnes. Donc on est tout à fait habitué à prendre soin les uns des autres, parce que quand vous regardez, finalement, il y a très peu de spectacles qui s'annulent ou qui se jouent pas parce qu'il y a quelqu'un qui serait malade ou voilà. Donc ça veut dire qu'on est très attentif à ça. Et là, il y a quelque chose où on n'arrive pas à prendre soin les uns des autres sur ce plan psychologique qui leur donne une énergie, enfin l'énergie de création, on peut pas la garder infiniment. Alors Mauvaise, par exemple, bah, c'est un spectacle, c'est un autre spectacle qui devait se créer, qui est un peu aussi en train de continuer de répéter. Là, on va pouvoir faire avec le théâtre de Gennevilliers quelques représentations pour des professionnels ou de la presse pour pouvoir essayer que le spectacle ait une vie malgré cela. Mais en gros, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une sorte d'embouteillage de spectacles sur les prochaines saisons. Et puis aussi, un problème très très important à comprendre, c'est la disponibilité des comédiens. C'est-à-dire qu'ils sont sur d'autres projets. Et donc, voilà, il y a des spectacles qui peut-être n'arriveront pas à voir le jour.
Hortense Archambault dans les matins du samedi. Nous vous retrouvons dans 3 minutes sur France Culture, puisqu'il est 7h30. Il est 7h34 et nous retrouvons notre invitée culture Hortense Archambault, directrice de la MC93, la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Vous nous disiez, il faut s'interroger sur nos missions, sur ce que l'on fait, sur la société que nous voulons. Justement, tout votre travail à la MC93, Hortense Archambault, repose, je crois, sur l'idée que la culture, le théâtre, ça n'est pas que la représentation et qu'il faut travailler autre chose autour. C'est ce que vous faites avec la fabrique d'expérience. Alors, ce sont des ateliers, c'est une classe prépa égalité des chances pour les jeunes comédiens qui veulent passer les concours de conservatoire ou des grandes écoles. Ce sont des formations pour les personnes qui accompagnent des groupes scolaires. C'est un concours photo, c'est un site de conférences, rencontres menées par l'historien Patrick Boucheron. Beaucoup de choses dont certaines continuent en ce moment. Arrivez-vous justement à maintenir une forme de vie culturelle et comment ?
Oui, en fait, dès qu'on peut faire quelque chose, on le fait. donc, on a réussi à maintenir le lien. L'idée de la fabrique d'expérience, c'était de dire finalement ces grandes maisons de la culture, ces institutions qui sont héritées justement de la politique culturelle française assez incroyable, hein, parce que on a un théâtre magnifique à Bobigny, un outil formidable. Il faut qu'il soit plus en lien avec la population. Et qui soit aussi peut-être il me semble que justement dans la société que l'on veut, en tout cas celle que moi je rêve, c'est de dire finalement quels sont les lieux de partage où se rassemblent des gens qui ne se ressemblent pas. Ça c'est une phrase de l'auteur Dieudonné Nyanguna qui m'a dit, mais en fait ce que tu veux faire, c'est un lieu où se rassemblent des gens qui se ressemblent pas. Et finalement quand on réfléchit, il n'y a pas beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour rencontrer des gens qui nous ressemblent pas, de générations différentes, d'histoires de vie différentes, de milieux sociaux différents. Et je crois que nos lieux sont ces lieux où on doit pouvoir partager des émotions, des pensées, des réflexions et contribuer en sens à la question démocratique. C'est-à-dire, et évidemment, tout ça se fait autour du théâtre. C'est une idée simple, hein, elle date des Grecs, que la question du théâtre, ça peut aussi être un endroit où une société se représente et s'interroge sur cette représentation des artistes. Donc la fabrique d'expérience, c'est un grand chapeau pour mettre tout ce qu'on a envie d'y faire avec l'équipe, avec des artistes qui sont souvent là pendant 2-3 ans pour arpenter le territoire autour de Bobigny, autour de l'AMC à Bobigny et en Seine-Saint-Denis. Mmh. C'est un territoire magnifique. Qui est passionnant, qui est un territoire jeune, qui est un territoire multiculturel, qui est un territoire qui repose toutes les questions de la France de demain, de l'Europe de demain. Et je trouve que c'est passionnant d'avoir la chance de pouvoir diriger ce lieu et de réfléchir à ce que ça soit une maison habitée par le plus de gens possible. Voilà.
Et une maison de culture qui est effectivement dans ce territoire qui est la Seine-Saint-Denis. La culture comme service public a-t-elle un rôle particulier à jouer dans ce territoire, et donc sa mise sur pause a-t-elle, selon vous, des conséquences particulières aussi dans ce territoire ?
C'est certain, ce territoire, c'est un des territoires qui va le plus payer son tribut à la crise que nous traversons, à la fois très directement par rapport à on sait que c'est un des territoires qui a été le plus touché par la maladie. Et puis c'est un territoire parce que les gens travaillent beaucoup, ont continué de travailler et sont souvent dans des espaces pas très grands, nombreux à y habiter, etc. Donc voilà, c'est un territoire qui accueille le monde aussi, donc c'est un peu notre la porte d'entrée sur des gens qui viennent de partout, notamment beaucoup de gens qui viennent parce que pour eux la France c'est le pays des droits de l'homme et de la culture. Donc il y a une attente. Et puis c'est un territoire qui va prendre de plein fouet la crise économique et on le voit déjà en fait.
On le voit déjà comment?
Parce que depuis mars, tout à coup, il y a eu beaucoup de solidarité dans le département, de l'aide alimentaire, des files importantes de gens qui n'avaient pas besoin d'aide alimentaire et qui maintenant ont besoin. Donc c'est assez simple en fait à voir. Et on voit bien que les gens ont de plus en plus de difficultés parce qu'il y avait beaucoup de petits boulots, notamment chez les jeunes. Les étudiants aussi ont beaucoup de difficultés. Donc voilà, c'est des choses très 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 visibles, simples à comprendre. Et je pense que la question de finalement comment on n'est pas tout le temps uniquement. En fait, ce que j'essaye de dire là, c'est que je pense que si on est dans le quotidien, dans la survie et tout ça, on n'arrive pas à avoir d'imaginaire, d'échappatoire. On n'arrive pas à se sortir, à souffler. En fait, voilà, Jean Castex a dit, on va pouvoir souffler à Noël. Mais moi, j'ai pas envie de souffler avec un repas de famille, même si j'adore ma famille. Je pense que souffler, c'est justement pouvoir inventer des choses, avoir des horizons nouveaux, voir un spectacle, avoir tout à coup une nouvelle idée qu'on va pouvoir creuser. Et je pense que tous les êtres humains sont comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, il n'y a pas besoin de maîtriser la langue française pour avoir profondément cette aspiration à pouvoir décoller d'un quotidien qui n'est pas facile. Je pense que alors on maintient tout ce qu'on peut maintenir, notamment vis-à-vis des jeunes gens. On continue d'accueillir des ateliers avec des lycéens. La classe prépa, c'est une classe qui prépare des jeunes aspirants comédiens à rentrer dans les concours. Donc voilà, dans évidemment le respect des mesures sanitaires.
Évidemment.
C'est très encadré, c'est moins important qu'avant, mais voilà. Et cet été aussi, dès qu'on a pu, on a fait des choses.
Et on parlait de la Seine-Saint-Denis, c'est aussi le département le plus jeune de France. Et justement, vous travaillez beaucoup avec des jeunes à la MC 93 via différents projets. On parle beaucoup en ce moment, et c'est normal, des conséquences de tout ça sur la santé mentale des Français et des autres en général, et des jeunes en particulier. Justement, vous, est-ce que vous avez des craintes liées à ça particulièrement?
Mais je crois que oui, c'est-à-dire que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est quand même inquiète par la crise économique, la crise écologique j'ai l'impression qu'elle est inquiète aussi par l'absence de d'horizon possible de réinventer le monde d'après quoi en fait. Voilà, et en même temps elle a une énergie créatrice incroyable, c'est-à-dire que franchement il y a des potentialités absolument magnifiques, formidables dans la jeunesse en France et celle de la Seine-Saint-Denis en particulier, parce que celle de la Seine-Saint-Denis, elle a aussi une chance, c'est-à-dire qu'elle est connectée avec le monde et elle est très connectée avec notre histoire, notre société et en même temps, elle est dans cette espèce de capacité d'être une incroyable force de traduction entre le monde et la France. Et je pense que, ils ont une sorte de capacité à englober des influences culturelles de partout et à faire leur propre culture, mais qui est passionnante.
Vous dites, Hortense Archambault, il faut réfléchir à la place de la culture, à ce qu'on veut faire avec. Précisément, malgré tout, en ce moment, la place de la culture et des artistes, elle n'a jamais été autant peut-être largement débattue ou discutée, en tout cas à travers aussi justement ces décisions d'ouverture, fermeture. C'est un vrai sujet en ce moment. Est-ce que vous trouvez que c'est bien d'avoir ces discussions? Et est-ce que ce que l'on vit là, finalement, vous conforte dans ce que vous pensiez déjà de la place et de l'importance de la culture, ou est-ce que ça vous remue un peu par rapport à ce que vous pensiez précédemment?
Ah non, moi je suis très heureuse de cet aspect positif de cette pandémie, que tout à coup on s'est rendu compte justement que c'était essentiel. Sauf que ça se fait par le manque et l'absence. Disons qu'on va dire, ça fait 10 mois, c'est formidable, on s'est dit que c'était essentiel, maintenant il faut juste qu'on puisse retravailler, quoi.
Hortense Archambault, nous allons écouter votre choix musical. À présent, Rachida Rodolphe Burger, Couscous Clan, vous nous dites ce que c'est en quelques mots?
Oui, c'est une aventure artistique incroyable, multiculturelle. C'est-à-dire que Rodolphe Burger, qui est un artiste que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup, avait travaillé avec Rachida et on a eu la chance de pouvoir les accueillir tous les deux. Et ça raconte beaucoup de choses, de cette intelligence, de cet humour, de cette capacité multiculturelle de pouvoir se confronter et travailler ensemble, et que c'est incroyable quand ça se marche.
Là, on va écouter un petit peu, c'est une captation de concert au festival Musique Avant 2015. Sarah, Couscous Clan, Rachida, Rodolphe Burger et le public, hein, que l'on entend bien, puisque c'était donc une captation de concert en 2015. Hortense Archambault, vous restez avec nous?